Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflits. Je vous amène cette semaine dans le 18e siècle et plus précisément à la fin du règne de Louis XIV. Nous allons parler du régent Philippe d'Orléans, celui qui est l'héritier du roi Soleil et qui a la lourde tâche d'assurer la régence pendant le moment où Louis XV est mineur et ainsi d'assurer cette transition entre deux règnes, et nous allons voir donc quelle a été la régence au-delà de ce qu'on en retient souvent, les fêtes, la banqueroute de l'As en 1720, et puis parfois une image un peu négative de Philippe d'Orléans. Nous allons essayer de faire la part des choses, de voir qui il était réellement, et également ce que cette période a pu apporter pour l'histoire de France. Pour évoquer le régent, je reçois cette semaine Alexandre Dupillet, qui est docteur en histoire, qui est également agrégé d'histoire et qui a publié plusieurs ouvrages consacrés à la période, notamment une biographie du cardinal Dubois, qui est parue chez Talendier, et qui vient de faire paraître chez Talendier une biographie du régent, le régent Philippe d'Orléans, l'héritier du roi Soleil. Et comme chaque semaine, vous pouvez retrouver l'ensemble des références sur le site internet de Conflits, avec donc les livres de nos invités. Alexandre Dupillet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu au micro de Conflits, nous parler de Philippe d'Orléans, qui est finalement assez peu connu dans l'histoire de France, parce que quand on égrène les règnes, on passe de Louis XIV à Louis XV, et on oublie que effectivement, si Louis XV est roi, de fait, ce n'est pas vraiment lui qui gouverne, et qu'il y a une petite intervalle, il y a une petite parenthèse, sur laquelle nous allons revenir, avec Philippe d'Orléans. Alors, avant de voir la régence à proprement parler, on va s'intéresser à qui il est, c'est-à-dire qui il est d'abord d'un point de vue de la généalogie, pourquoi est-ce que c'est sur lui qu'échoit la couronne, en quelque sorte, même virtuellement. Et puis, est-ce qu'il a été toujours programmé pour être régent? Est-ce qu'il a été formé pour ça? Ou est-ce que ça lui tombe dessus parce que il y a eu beaucoup de morts, notamment dans les dernières années du règne de Louis XIV, beaucoup de morts, et finalement, la descendance royale est décimée?
Alors, il n'est effectivement pas programmé pour ça, puisque Philippe d'Orléans, donc qui est né duc de Chartres, est le fils de Monsieur, qui est le frère de Louis XIV, donc, et de Madame, la princesse palatine. C'est-à-dire qu'il est le petit-fils de Louis XIII et l'arrière-petit-fils d'Henri IV. Mais, comme vous l'avez bien dit, Louis XIV avait une descendance très importante. Il y avait, bien sûr, le Grand Dauphin. Et puis, derrière le Grand Dauphin, il y avait notamment le Duc de Bourgogne. Et le problème, c'est que en 1712, il y a cette suite de décès qu'on jugeait à l'époque un peu mystérieux. Donc, en 1711, le Grand Dauphin, d'abord, décède. Puis, en 1712, vous avez donc le nouveau dauphin, le duc de Bourgogne, hein, qui est le petit-fils de Louis XIV, qui décède également. Son premier enfant décède aussi. Il ne reste plus à ce moment-là que le deuxième fils du duc de Bourgogne, donc arrière-petit-fils de Louis XIV, donc qui va être le futur Louis XV. Mais en 1712, Louis XV, qui n'est pas encore Louis XV, bien sûr, n'a que 2 ans. Donc, on sait déjà qu'on s'oriente à ce moment-là vers une régence qui était absolument inattendue, puisque, d'ailleurs, Louis XIV s'enorgueillissait lui-même d'avoir vraiment assuré sa descendance. Donc, une régence absolument inattendue. Mais il faut aussi dire que, dans l'ordre de la régence, Philippe d'Orléans, notre héros, n'est toujours pas le premier, parce qu'il y a un dernier petit-fils de Louis XIV qui vit encore et qui est à la cour de France, qui est le duc de Berry, qui lui meurt seulement en 1714. Et c'est donc en 1714 que on imagine que Philippe d'Orléans, qui est le neveu donc de Louis XIV, peut devenir régent. Je signale juste quand même, pour s'y retrouver, qu'il y avait un dernier petit-fils de Louis XIV qui était encore vivant à cette époque, mais qui était déjà occupé, puisqu'il se trouvait en Espagne, et c'était donc Philippe V. Donc à partir de ce moment-là, Philippe d'Orléans est le régent potentiel, mais il faut bien le dire, vous l'avez souligné, il n'a pas du tout été préparé à ça. Il a quand même reçu une excellente éducation, une éducation très poussée, grâce à son précepteur, qui était Dubois. une éducation, on pourrait dire, presque digne d'un roi, parce que ce petit duc de Chartres, donc Philippe d'Orléans, qui est né donc en 1674, avait vraiment de grandes qualités, il retenait tout facilement, et donc il a reçu une excellente éducation. Cela dit, recevoir une excellente éducation, ce n'est pas être préparé non plus à prendre le pouvoir.
C'est assez rare des régences malgré tout dans l'histoire de France. Il n'y en a pas eu, sous l'époque moderne, il n'y en a pas eu énormément.
Alors, il y en a quand même quelques-unes. Ce qui est assez rare, effectivement, et c'est pour ça qu'on fait quelquefois la confusion, il y en a quand même eu une à la fin du règne d'Henri IV et sous Louis XIII avec Marie de Médicis, et bien sûr au début du règne de Louis XIV avec Anne d'Autriche. Mais c'est vrai que ce sont les régences qui sont exercées par les mères. Et là, la duchesse de Bourgogne, donc, est la mère de Louis XV, est également morte en 1712. Hein. Vous avez cette suite de décès un petit peu mystérieux. On sait aujourd'hui qu'ils sont décédés de la rougeole, qu'il y avait en fait une épidémie, ce qu'on ne savait pas véritablement déceler à l'époque. Donc, en fait, ce qui est rare, c'est que ça soit surtout quelqu'un d'aussi éloigné du pouvoir qui puisse prétendre à devenir régent, ce qui est donc le cas de Philippe d'Orléans, qui est quand même qui n'est que le neveu, entre guillemets, de Louis XIV, et donc un cousin de Louis XV.
C'est extrêmement codifié, la régence, quand ça s'est déclaré, donc à la mort de Louis XIV, il n'y a pas de sacre, évidemment, parce qu'il n'est pas roi, mais il y a une codification particulière, il est nommé régent, comment il acquiert ce statut?
Alors, c'est une grande question, parce que oui, il y a des codes, et en même temps, tout est possible. C'est d'ailleurs ce qui pose problème à Philippe d'Orléans en 1714. Il a des concurrents, en fait, potentiels. On peut aussi exercer une régence sans qu'il y ait de régent, c'est-à-dire seulement avec un chef du conseil de régence ou un lieutenant général du royaume. Quand vous avez, en fait, les mères qui sont encore vivantes, finalement, on peut dire que c'est assez codifié. Mais là, on se retrouve face... vraiment une immense inconnue, puisque le régent Philippe d'Orléans pense qu'évidemment ce doit être lui, et normalement ça doit être lui, mais on peut aussi s'interroger, est-ce que par exemple les fils légitimés de Louis XIV, donc qui sont issus de son union avec Madame de Montespan, donc le duc d'Humaine et le comte de Toulouse, mais surtout le duc d'Humaine qui est l'aîné, ne pourraient pas par hasard être nommés régent, ou est-ce que Philippe d'Orléans ne pourrait pas être écarté du pouvoir? Il est le régent légitime, ça c'est évident au regard de ce qui se passe dans l'histoire, parce qu'il est vraiment le parent le plus proche du roi, du futur Louis XV. Mais en même temps, il faut quand même préparer cette prise du pouvoir, parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. D'autant, on y reviendra peut-être, que Louis XIV a laissé un testament.
Et donc il a fallu innover pour les juristes de l'époque dans la... Innover, au sens où il n'y avait pas de précédent, donc il a fallu créer quelque chose.
Pas véritablement, parce qu'en fait, Louis XIV avait, d'une certaine manière, préparé la manière dont devait se dérouler la prise du pouvoir pour la régence, puisqu'il avait laissé un testament, qui a été fait en 1714, et que ce testament, il l'a donné au Parlement de Paris. Alors, les parlements, on le sait à l'époque, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, hein, ce sont des cours de justice, d'abord, c'est leur principal travail. Après, les parlements peuvent aussi se prononcer quelquefois sur les édits royaux. Et donc, ils peuvent faire ce qu'on appelle des remontrances, c'est-à-dire demander au roi de changer ses édits. Alors, soyons très clairs, Louis XIV, lors de sa prise du pouvoir en 1661, et après, en fait, il y a eu aussi des édits qui ont sanctionné cette décision, Louis XIV avait dit qu'il n'écouterait pas les remontrances des parlements, et notamment du Parlement de Paris, donc il ne s'est rien passé sous son règne. Mais normalement, les parlements peuvent avoir ce rôle à jouer. Et là, pour revenir vraiment à ce qui nous intéresse, Louis XIV, en confiant son testament au Parlement de Paris, lui donne un pouvoir qui est essentiel, puisque c'est le Parlement qui doit ouvrir le testament et qui a pouvoir de se prononcer dessus. Cela dit, c'est très complexe, mais il y a eu plusieurs choses envisagées. On a même envisagé à un moment, en tout cas Philippe d'Orléans et Saint-Simon, qui était un peu son conseiller, vraiment son principal conseiller dans cette période très courte entre 1714 et 1715, ont même envisagé d'en appeler aux États généraux. Oui, là, on aurait vraiment eu qu'ils ne s'étaient pas réunis depuis un siècle. Mais finalement, les choses sont assez balisées par Louis XIV, qui, lui, a confié ce testament au Parlement de Paris.
Donc Philippe d'Orléans devient le régent, donc ça veut dire qu'il va avoir à la fois la charge de gouverner le royaume et aussi de préparer la montée sur le trône du jeune Louis XV, qui est le roi.
Oui.
Et quel est justement le rapport, enfin, dans l'autorité entre le roi et le régent? Alors, si Louis XV est tout jeune, on peut supposer qu'il n'a pas beaucoup d'autorité personnelle, mais enfin, c'est malgré tout le roi. Avant que Louis XV soit majeur, s'il y a une opposition entre les deux, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est arrivé, vous me direz, mais si jamais il y a une opposition sur un dossier, est-ce que c'est le roi mineur qui peut l'imposer au régent ou l'inverse?
Alors, en vérité, le régent n'a pas l'autorité d'un roi, puisque évidemment, il n'est pas sacré, mais il en a tout le pouvoir, et en tout cas, en ce qui concerne vraiment la régence, soyons très clairs, hein, Louis XV est vraiment quasiment invisible jusqu'à son sacre en 1723. Donc on voit que c'est vraiment Philippe d'Orléans qui gère les affaires du royaume, vraiment, il n'y a pas d'opposition. Après, sur les affaires politiques, il me semble que le roi et en tout cas, s'il y avait pu y avoir un conflit, le roi est insuffisamment préparé à cet âge, donc pour véritablement s'opposer au régent ou à celui qui pourrait effectivement faire la régence. Ce n'est plus évidemment du tout la même chose à partir du moment où les rois ont 13 ans et donc sont majeurs et peuvent véritablement gouverner. Là, c'est autre chose.
Alors, on va s'intéresser dans la suite de l'émission jusqu'à la régence proprement dite, 8 années, ce qui est finalement enfin, assez court, et en même temps, on peut faire beaucoup de choses en 8 ans aussi. Peut-être voir les aspects économiques, et puis après, nous parlerons des aspects diplomatiques, notamment avec le cardinal Dubois, mais il n'est pas intervenu que là. Mais enfin, figure très intéressante, le cardinal Dubois, qu'on redécouvre d'ailleurs à travers votre biographie, oubliée, mais enfin, c'est parti des cardinaux qui ont dirigé la France avec Richelieu et Mazarin. Alors, ce qu'on retient souvent de la régence, c'est 1720, la faillite de John Nash. Donc, on va peut-être revenir un petit peu dessus et essayer de voir ce que la recherche historique en fait aujourd'hui par rapport à l'idée générale qui vogue ici ou là. Il y a parfois quelques différences. Qui est-il, cet Écossais qui a la charge d'un coup des finances publiques et pourquoi on aboutit à cette faillite qui reste dans les mémoires en 1720?
Alors, c'est vrai que là, à cette image d'un aventurier écossais, il faut dire qu'il a quitté l'Écosse et il a quitté Édimbourg alors qu'il était âgé, je crois, d'une vingtaine d'années, tout simplement à la suite d'un duel qui a mal tourné. Donc, on lui a donné la possibilité soit de s'exiler, soit tout simplement d'aller en prison. Donc, il choisit effectivement de s'exiler. Il va faire un peu, c'est déjà quelqu'un qui s'intéresse et vraiment aux affaires économiques, et notamment aux affaires financières, et il va faire un peu, on le retrouve un petit peu partout en Europe, où justement il essaye de regarder comment peuvent fonctionner les banques, et notamment, ce qui est vraiment sa grande idée, comment on pourrait essayer de remplacer donc les espèces, et notamment les espèces, bien sûr les espèces métalliques, hein, c'est vraiment ça qu'on parle, par du papier monnaie. C'est vraiment là sa grande idée, parce que c'est une idée finalement qui est une idée assez simple. C'est quelqu'un qui estime que pour relancer le commerce, il faut passer au papier-monnaie. Alors, on le retrouve en fait en France déjà avant la Régence, puisque il discute de cette idée de créer une banque, qui serait bien sûr une banque générale, qui pourrait émettre du papier-monnaie, avec le dernier contrôleur général des finances de Louis XIV, qui est démarré. Et puis, le projet est déjà bien abouti, finalement ça n'avance pas, tout simplement parce que Louis XIV décède. Mais déjà, on voit que John Nash avait, on dit de l'as ou l'eau, hein, l'as à l'époque, l'eau aujourd'hui, John Nash avait déjà une idée de ce qu'il voulait faire, très très claire, et puis il a été voir Philippe d'Orléans avant même que celui-ci ne devienne régent. Donc on voit aussi qu'il y a derrière tout cela une préparation donc de la régence. Il faut savoir aussi que Philippe d'Orléans est quelqu'un qui... Alors, on y reviendra, hein, qui n'est pas quelqu'un de libéral, hein, il faut arrêter avec cette idée donc de l'orléanisme qui serait né soi-disant avec lui. C'est vraiment pas du tout le cas, c'est un tenant de la monarchie absolue. Donc comme je le dis dans la biographie, c'est vraiment l'héritier de Louis XIV, hein, c'est l'héritier du roi Soleil, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse aux innovations. Et évidemment, ce que lui propose John Lass, cette idée effectivement de remplacer les espèces métalliques par du papier monnaie. Et puis bien sûr, il va plus loin sur l'explication, sur le système, on va y revenir, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe. Tout cela, le régent, ça l'intéresse beaucoup. Et finalement, en fait, dès 1715, John Lass va proposer cette fameuse banque, qui va d'abord être refusée, puis qui va être acceptée un an plus tard, en 1716, et on a une banque générale qui se met en place. Et puis progressivement, cette banque, dont les activités sont adossées à du commerce, puisqu'elle va prendre vraiment en pleine propriété, plutôt c'est Lass qui le fait, les différentes compagnies commerciales du royaume pour former jusqu'à une immense compagnie. Alors là, je vais très vite, hein, mais on est déjà en 1719, qui est la fameuse Compagnie des Indes, qui va avoir le monopole du commerce avec les colonies. Et notamment, ce qui intéresse beaucoup à l'époque, l'exploitation de la Louisiane. Et cette compagnie va émettre des actions. Tout ça est adossé aux activités de la banque et il va y avoir un immense mouvement de spéculation quand le système se met vraiment en place à partir de 1719, où on achète des actions de la compagnie, notamment avec les billets que la banque émet. Et il ne faut pas oublier en plus que l'ensemble du système fiscal était aussi contrôlé par la compagnie. C'est-à-dire que tout ce qui était impôt indirect, et notamment tout ce qui est ferme et impôt direct, était aussi contrôlé par la compagnie et par John Law, qui est à ce moment-là le contrôleur général des finances. Mais là, nous sommes vraiment en 1719-1720, et tout cela se met en place progressivement avec derrière un Philippe d'Orléans qui vraiment encourage cette activité presque envers et contre tout, et notamment contre ses premiers ministres des finances, ceux qu'il avait notamment nommés en 1715 pour s'occuper de l'économie.
Donc on a une entreprise qui fait du commerce colonial en Louisiane notamment, et cette entreprise privée donc s'occupe à la fois de la fiscalité et son revenu et son bénéfice permet de gager une nouvelle monnaie.
C'est exactement ça. On est vraiment dans du conflit d'intérêts, hein. Je veux dire, on pourrait vraiment absolument plus faire ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous imaginez, on a un ministre des Finances qui est à la tête, effectivement, d'une compagnie privée. Et c'est cette compagnie privée, puisque vous avez des actionnaires qui gèrent les impôts, hein. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez, pour nous, à quelques siècles de distance, est assez difficile à concevoir et à comprendre.
Et donc ça s'effondre en 1720, parce que la compagnie elle-même fait faillite ?
Alors, le problème, c'est que, en fait, la compagnie, c'est pas qu'elle fait faillite, c'est qu'il y a un mouvement spéculatif tout autour pour les actions de la compagnie. En fait, c'est de l'agiotage, c'est-à-dire que la compagnie émet des actions. Les gens voient, et même quand je dis les gens, c'est vraiment aussi le petit peuple, c'est-à-dire qu'à Paris, à ce moment-là, on est rue Quincampoix, vous avez des comptoirs qui vendent des actions de la compagnie tout le long de la rue Quincampoix, et même ce qu'on pourrait dire vraiment le petit peuple se met à acheter des actions. Pour quelle raison ? Parce que tout simplement, ces actions, le cours des actions augmente très rapidement, donc en fait on peut faire fortune vraiment très très vite. Alors vous savez, il y a des tas de, on ne sait pas du tout si elles sont vraies, mais vous avez des tas d'anecdotes qui circulent, et notamment une qui est très célèbre où on raconte qu'un valet avait fait fortune en deux jours, et il avait acheté un carrosse, et quand il avait son carrosse, en fait, il était absolument pas habitué à monter dedans, et il continuait en fait à monter derrière. Vous voyez le genre d'anecdote auquel ça a pu donner lieu. Et le problème, c'est que comme en fait toute bulle spéculative, il y a un moment où on perçoit que le cours des actions n'est absolument pas en rapport avec ce que peut rapporter les activités de la compagnie, parce que notamment le développement de la Louisiane est très très long. Il y a très peu de monde en Louisiane, donc en fait on attend mille merveilles de la Louisiane en ce qui concerne le développement du commerce, mais cela effectivement s'effondre très vite. Le prix des actions baisse. On veut aussi, lorsque on vend les actions, on récupère les billets de banque qui sont émis par la banque. On veut aussi retirer de l'or parce que le prix des billets également s'effondre, et donc très rapidement tout cela fait faillite. Il faut quand même bien voir que sur le système de l'AS, on met à peu près 4 ans à le mettre en place, avec le fait que la Banque Générale soit créée, qu'elle devienne la Banque Royale, qu'ensuite l'AS se mette à la tête de la compagnie et puis absorbe les autres compagnies commerciales. Et en fait, au moment même où le système se met en marche, c'est déjà presque fini, hein. Ça dure véritablement 6 à 8 mois, pas plus. Mais ça a permis d'éponger, et ça, il y a vraiment des choses extrêmement positives, puisque cela a permis d'éponger une grande partie des dettes de la monarchie.
Ça, c'est toujours utile, évidemment. On ruine les épargnants, mais au moins, on épure le trésor public.
C'est exactement ça.
C'est une forme d'impôt volontaire, quelque part. Alors, voyons maintenant, alors, on va relâcher sur la question économique, parce que c'est aussi intéressant. On est au XVIIIe siècle, dans les années 1715-1720, il y a aussi un grand dynamisme de l'économie et notamment de l'agriculture. Est-ce que le régent a eu un rôle là aussi dans ce développement? On est au début de ce qu'on appelle ensuite la révolution industrielle, il y a quand même premières inventions, enfin ça, les choses se mettent un peu en place aussi.
Alors, très clairement, si on prend le rôle de Philippe d'Orléans sur l'économie de l'époque, soyons clairs, il est très très faible. Il est très faible au sens où vraiment, quand on parle du système de l'AS, on fait quasiment le bilan économique du régent. C'est quelqu'un qui s'intéresse, bien sûr, notamment au relèvement économique du royaume, parce qu'il faut pas oublier qu'en 1715, on a vraiment un royaume qui est presque en situation de banqueroute, que vous avez une dette qui est extrêmement importante, la raison étant que il y a eu 12 années de guerre juste auparavant et que la guerre coûte très cher.
Oui.
Voilà. Et donc, très clairement, Philippe d'Orléans n'a pas un rôle exceptionnel en ce qui concerne le développement de l'économie. Par contre, il suit les politiques économiques classiques que ses ministres lui proposent en début de régence, qui sont vraiment d'un classicisme absolu, qui est une réduction des déficits, tout simplement avec une réduction des dépenses. Mais vraiment, son rôle à lui, ça va être le système de l'AS. Il y a juste quand même une petite chose, c'est que le régent a été à l'origine de ce qu'on appelle une enquête, on appelle l'enquête du régent, où il va demander à des intendants, notamment, qui sont dans les provinces, de répertorier l'ensemble des richesses économiques du royaume pour tenter de les faire fructifier. Alors évidemment, on est plutôt dans une sorte d'immense rapport sur ce qui pouvait justement relancer l'économie au royaume, mais ce rapport ça rappelle, on va dire, on pourrait faire des parallèles très faciles avec la situation actuelle. Ce rapport va pas véritablement être exploité par la suite, mais ça montre aussi que le régent s'y intéressait.
Alors, vous avez évoqué la guerre et le fait que la guerre a ruiné le royaume, ce qui nous amène aux questions diplomatiques. Le règne de Louis XIV est marqué notamment à la fin par la guerre de succession d'Espagne. Alors, je renvoie nos auditeurs à une émission que nous avions réalisée en mars dernier sur la guerre de succession d'Espagne. Ça fera comme ça la jonction avec le régent. Et cette guerre a très fortement grévé les finances. On a échappé à la banqueroute de peu. Et comment se positionne le régent par rapport à la diplomatie européenne? Est-ce qu'il est vraiment dans la continuité Louis XIVienne? Est-ce qu'il tente de réaménager les alliances, de s'entendre avec les uns et les autres, et puis d'essayer de faire la paix, ou est-ce qu'il se lance là aussi dans des guerres contre ses voisins?
Alors, le régent, sur le plan diplomatique, est un homme qui est tiraillé. Tiraillé entre le respect qu'il a pour Louis XIV, et en fait, le respect qu'il a pour Louis XIV, c'est tout simplement l'alliance avec l'Espagne. C'est-à-dire que l'alliance espagnole, avec Philippe V, bien sûr, à la tête de l'Espagne, doit être absolument privilégiée. Mais on lui conseille, et son conseiller, on va peut-être y revenir, c'est bien sûr Dubois, hein, qui a été son précepteur, qui est son conseiller en début de régence et qui deviendra un petit peu plus tard, en 1718, secrétaire d'État des Affaires étrangères. Dubois lui conseille vraiment de tenter une alliance avec l'Angleterre. Pourquoi? Parce que le principal objectif, vraiment, c'est d'être en paix. Et surtout qu'il ne puisse pas y avoir de guerre. Alors ce n'est pas du tout que le régent est, on pourrait dire, un pacifiste, ça ne veut absolument rien dire à l'époque, c'est tout simplement que le royaume ne peut pas se permettre de se lancer dans une nouvelle guerre. Et qui est le potentiel adversaire le plus puissant? c'est l'Angleterre. Donc, il faut vraiment, là, essayer de faire alliance avec l'Angleterre. C'est ce à quoi s'emploie Dubois dès 1716, et il va donc rencontrer, par exemple, le ministre, un ministre anglais qui s'appelle Stanhope, qui est lui aussi en charge des affaires diplomatiques, pour essayer de mettre sur pied une alliance avec les deux ennemis d'autrefois, c'est-à-dire l'Angleterre, mais aussi les Provinces-Unies, c'est-à-dire les Pays-Bas actuels. Et cette alliance est vraiment mise en place dès le mois de janvier 1717, donc on voit que c'est très très court, ça va assez vite, mais c'est-à-dire, je ne rentre pas dans le détail, mais durant toute l'année 1716, pendant laquelle vous avez des négociations, pendant que vous avez vraiment des tractations entre Dubois et entre Stanhope, vraiment le régent est tiraillé, il ne sait pas s'il faut vraiment aller dans ce sens, il hésite vraiment jusqu'au dernier moment, et même une fois que l'alliance est signée, il hésite encore à aller plus loin. Donc on a un régent qui veut vraiment être sur ce point respectueux de la politique Louis XIVienne, et qui en même temps sent bien que c'est l'intérêt du royaume de peut-être tourner le dos, ne serait-ce que un petit laps de temps, un court moment, à l'Espagne pour se rapprocher de l'Angleterre, et c'est ce qu'il fait effectivement.
Et ça a marché, cette alliance avec l'Angleterre,
Alors ça marche en fait tellement bien que vraiment là sur le plan diplomatique, Dubois et le régent réussissent un tour de force. C'est-à-dire que moi j'aurais tendance à dire, on parle beaucoup du système de l'As, mais le système s'effondre, on peut aussi parler d'autres réformes politiques, mais le chef-d'œuvre de la régence, c'est la diplomatie. Et c'est vraiment Dubois qui mène ça du début jusqu'à la fin, bien entendu, avec le soutien de son maître. Pourquoi ça marche très bien? Parce que tout simplement en 1718, cette fameuse triple alliance va devenir quadruple alliance. Elle devient quadruple alliance avec l'adhésion de l'empereur, donc de l'Autriche, si vous préférez, à cette quadruple alliance. Et ce que donc ces alliés vont réussir à faire, c'est également forcer l'Espagne, qui est très réticente, à adhérer également à cette alliance en 1720. Et cela au prix d'une guerre. C'est-à-dire que le régent pose un ultimatum donc à son cousin, à Philippe V, en lui expliquant que s'il décide de ne pas adhérer à la quadruple alliance, il va avoir la guerre. Et c'est ce qu'il fait durant l'année 1719. C'est une guerre qui est extrêmement courte, qui est juste, je dirais pas non plus que c'est une guerre de pacotille, hein, attention, il y a des combats, mais qui sert juste à montrer à Philippe V qu'il ne peut pas rester seul, et ils vont, finalement, Dubois et Philippe d'Orléans réussissent ce tour de force absolu de quadrature du cercle, de mettre en place une alliance qui réunit à la fois l'Angleterre, les Provinces-Unies, l'Autriche, la France, l'Espagne, et même juste après, ils vont faire une alliance encore plus proche, qui est plus ou moins secrète, entre l'Angleterre, l'Espagne et la France. Et ceci, notamment, finit par se traduire, parce qu'en France, hein, tout finit par un mariage, donc par, en tout cas, les fiançailles du petit Louis XV avec donc la petite infante d'Espagne, la fille du roi d'Espagne, Marie-Anne Victoire, qui, à cette époque, n'est âgée que de 4 ans. Ce qu'on a très bien raconté dans Chantal Thomas, dans l'échange des princesses, hein, qui... Effectivement,
mais le mariage n'a pas jusqu'au bout, puisque Louis XV épouse finalement une
bien sûr, en fait, le problème, c'est que après 1723, vous avez absolument raison, le mariage, effectivement, va être ébrisé, et donc ça n'ira pas jusqu'au bout, mais n'empêche que si on s'arrête vraiment à ce que fait le régent, on arrive vraiment en 1723, et puis même finalement après, vous avez effectivement, vous avez sous le règne de Louis XV, bien sûr, vous avez les guerres, effectivement, succession d'Autriche, etc. Mais en même temps, on voit qu'ils arrivent vraiment, Dubois et le régent arrivent à imposer la paix à la France et même en Europe, donc pour au moins une bonne dizaine d'années.
Alors, le cardinal Dubois, on a beaucoup cité son nom, on va revenir un petit peu sur lui parce que c'est un personnage extrêmement intéressant, avec Richelieu, avec Mazarin, il fait quand même partie, et cardinal de Fleury aussi, fait partie de ces cardinaux qui ont eu un rôle extrêmement important, une sorte de premier ministre en quelque sorte, enfin d'homme politique majeur. Qui est-il, Dubois? Vous voyez qu'il était précepteur de Philippe d'Orléans, donc... Il s'est retrouvé là un peu par hasard, en tout cas, il a été porté par le hasard et par la chance aussi d'être précepteur du futur régent. Lui, c'est un prêtre, un homme d'église, et il a été formé comment? Et on voit très bien dans votre ouvrage d'ailleurs une très grande intelligence et une capacité à gouverner de manière tout à fait correcte.
Alors, c'est un petit abbé, d'abord, qui n'a pas prononcé ses vœux, donc qui n'est pas prêtre, et qui ne devient en fait prêtre que lorsqu'il devient archevêque de Cambrai, donc vous voyez, en 1720. Donc en fait, il reste abbé jusqu'à... il va effectivement prononcer ses vœux seulement en 1720. Donc c'est un... Il vient de Brive. D'accord, donc c'est un Corrézien. Il est fils d'apothicaire. Alors fils d'apothicaire à cette époque-là, ce ne sont pas des gens hein, qui roulent effectivement sur l'or, mais qui montrent justement quelques qualités pour les études et qui va justement venir étudier à Paris. Et puis c'est en fréquentant différents milieux, là vous avez absolument raison, hein, c'est tout simplement du hasard ou de la chance qu'il va rentrer dans l'entourage de celui qui n'est à l'époque que le duc de Chartres, donc le futur Philippe d'Orléans. D'abord en tant que répétiteur, hein, c'est-à-dire vraiment il faisait répéter ses leçons. Et puis, quand le premier précepteur de Philippe de Chartres meurt, eh bien, c'est Dubois qui, à ce moment-là, prend la suite. Mais, effectivement, il est très proche de son maître. Cela devient son principal conseiller lorsque Philippe d'Orléans grandit. Mais il n'est pas du tout appelé à un rôle politique. Et, en revanche, quand même, dès la Régence, c'est quelqu'un qui sait saisir sa chance, et sa chance passe vraiment par la diplomatie. Alors, il a vraiment une très grande intelligence, il est extrêmement clairvoyant. C'est aussi un véritable ambitieux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va cesse d'avoir à gravir les échelons. Il est d'abord, il va devenir archevêque de Cambrai, et puis surtout son obsession, c'est d'être cardinal. Et puis il ne faut pas oublier qu'en 1722, et vous avez cité le terme de premier ministre, c'est exactement ça. On disait à l'époque principal ministre, mais comme ceux qui sont ses références. Je dirais ses idoles, alors qu'il n'a vraiment rien à voir avec eux lorsqu'on regarde sa carrière, comme Richelieu et Mazarin, il devient principal ministre, donc d'abord du régent, puis ensuite de Louis XV, puisque quand Louis XV est majeur en 1723, eh bien Dubois est déjà dans la place, alors que Philippe d'Orléans a déjà commencé à prendre un peu de recul par rapport au pouvoir.
Et donc il va être pendant quelques mois le dirigeant de la France, vous le montrez, enfin, le régent se retire, il est très fatigué, il meurt d'ailleurs peu de temps après, et c'est de fait Dubois qui dirige le pays.
Alors c'est à la fois le Dubois au firmament et en même temps son grand regret, si je puis dire, c'est qu'il est le principal dirigeant de la France pendant exactement, hein, à quelques jours près, pendant un an. Pendant un an, il est le principal ministre. Il travaille vraiment d'arrache-pied. On a gardé, ça c'est vraiment très précieux, ses emplois du temps. Donc il commence à travailler vraiment à 5 heures du matin pour finir tard le soir. C'est quelqu'un qui a une volonté de contrôle presque absolue. Autant on a pu croire à un moment que Philippe d'Orléans était un peu un libéral par rapport à Louis XIV, autant Dubois, alors là c'est encore plus clair. C'est vraiment notamment lui qui incite aussi Philippe d'Orléans à véritablement imposer son pouvoir de régent en 1718, hein, puisque il y a une première période où le régent recherche un peu le consensus, et après on a une régence qu'on qualifie souvent de plus autoritaire, et donc en tant que principal ministre, il exerce vraiment, vraiment un pouvoir presque absolu, même si, il faut quand même le dire, hein, Philippe d'Orléans prend un peu de recul. Il s'occupe beaucoup à cette époque-là de Louis XV, et bien sûr, quand même, il garde vraiment un œil sur les affaires, mais c'est très difficile de faire la part des choses. Si on suit Saint-Simon, Saint-Simon dit que Philippe d'Orléans était totalement écarté des affaires, ce qui me semble quand même très exagéré. C'était qu'il avait quand même gouverné la France déjà pendant 7 ans, et même s'il veut prendre un peu de recul, il reste quand même à Versailles, il regarde ce qui se passe, et donc, voilà, il y participait encore.
Alors Dubois meurt d'épuisement, il s'est vraiment tué à la tâche, et du coup Philippe d'Orléans revient sur le devant de la scène jusqu'à la majorité de Louis XV.
Alors, si on veut refaire la chronologie, en fait, alors c'est pour faire extrêmement clair, Dubois devient principal ministre en juillet 1722, le sacre de Louis XV c'est en février 1723, et vous avez ensuite Dubois qui meurt donc en août 1723. Donc vraiment pendant 6 mois, il est vraiment le principal ministre de Louis XV. Et effectivement, il avait un cancer de la prostate, mais très clairement qui a été largement accéléré par le fait qu'il soit devenu le Premier ministre et que cette volonté de contrôle absolu sur les affaires. Et donc, comme vous le dites, à ce moment-là, c'est vraiment Philippe d'Orléans, qui n'est plus le régent, puisqu'il n'est plus vraiment depuis le début de l'année 1723, qui revient sur le devant de la scène et qui, presque naturellement, devient le principal ministre de Louis XV, pour une période là aussi très courte, puisque Philippe d'Orléans ne survit que 6 mois, comme vous l'avez dit à Dubois, puisqu'il meurt en décembre 1723.
Il est mort jeune aussi, d'ailleurs.
Alors, il est mort, effectivement, il avait 49 ans, donc pour l'époque, c'était effectivement assez jeune. Alors, assez jeune, en tout cas, si on regarde par rapport à Louis XIV, ou même par rapport à Dubois, qui est mort à peu près à l'âge de 66 ans, c'est vrai que c'était jeune, oui. Oui.
Et une fois que Philippe d'Orléans décède, parce que Louis XIII, il a 13 ans, donc ça reste quand même quelqu'un de très jeune.
Alors,
Louis XV a 13 ans. Oui. Il prend quelqu'un pour le remplacer, ou comment serait le...
Oui, alors, en fait, il y a une hésitation, on se demande si ce n'est pas le fameux précepteur de Louis XV qui peut prendre le pouvoir, parce que bien sûr, à 13 ans, on voit pas du tout Louis XV exercer le pouvoir. Et donc, c'est le duc de Bourbon, donc, qui est un descendant du Grand Condé, qui a participé aussi très activement à la régence, hein, qui a été au conseil de régence avec Philippe d'Orléans, qui a été aussi dans l'administration du conseil de la guerre, qui est resté bien sûr au conseil de régence jusqu'à ce que celui-ci s'arrête en 1723, qui devient en fait le premier ministre de Louis XV, jusqu'en 1726, où Fleury à ce moment-là va l'écarter.
Alors, on parlera de plus en détail de Louis XV une autre fois, on pourra lui consacrer une émission aussi, parce que c'est également passionnant, mais enfin, il nous reste quelques minutes pour rester sur Philippe d'Orléans. Alors, on va évoquer aussi les aspects culturels, parce que, alors, on associe toujours la régence à la faillite de Las, qu'on a évoqué, et puis à la fête. Alors, il y a ce célèbre film de Bertrand Tavernier, mais est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment le propre de cette période? On a l'impression d'un... Alors c'est un peu l'image d'Épinal, dernière année de Louis XV, Louis XIV très triste et très sombre, et puis explosion de couleurs et de joie, et pendant la régence, on a l'impression que les gens font la fête tout le temps. Hein. Alors, qu'en est-il de l'état des choses? Est-ce qu'on est effectivement dans cette ambiance très festive?
Alors, il faut bien admettre que on est dans une ambiance qui est quand même festive. Alors, ce qui n'empêche pas que vous avez de la misère, ce qui n'empêche pas que vous avez des événements comme la peste de Marseille en 1720, mais c'est vrai que en 1715, vous avez une forme de relâchement où les gens effectivement vont respirer, où vous avez avoir. Alors, ce qui incarne vraiment aussi les fêtes, c'est les bals de l'opéra qui sont créés au tout début de la régence, où on peut se rendre durant la période de carnaval, que l'on soit issu de la noblesse ou que l'on soit issu du petit peuple. Et donc, c'est vrai, hein, il faut le reconnaître, il y a une forme de respiration sous la régence. Alors on dit aussi c'est le début des Lumières. Alors c'est vrai que ceux qui vont faire le siècle des Lumières font aussi leurs premières armes sous la Régence. Hein. C'est vraiment le cas de Voltaire. On commence aussi à voir apparaître Montesquieu. On commence aussi à voir Marivaux. Cela dit, il faut quand même rester prudent. Par exemple, lorsqu'on regarde les pièces qui se jouent, dans les théâtres et tout ça, c'est quand même encore les grandes tragédies, que ce soit de Racine ou de Corneille, ou encore pour les opéras, même si on voit bien sûr apparaître, et ils tiennent quand même le haut du pavé, des musiciens aussi importants que Gluck, que Campra. C'est quand même encore Lully qui a beaucoup de succès. On est vraiment toujours avec la Régence dans cet entre-deux, c'est-à-dire vraiment cet entre-deux règne. On est entre le grand siècle et le siècle des Lumières. On voit bien qu'on est dans une période de transition, mais il y a une véritable respiration. Mais attention, vraiment, la présence, je dirais, tutélaire, en tout cas l'ombre du roi soleil, est encore très présente dans la France de la Régence.
Vous avez évoqué la peste de Marseille, Alexandre Dupillier. Alors évidemment, dès qu'on parle d'épidémie, maintenant, on repense à ce qu'on vit depuis un an avec le coronavirus. Mais vous avez évoqué en début d'émission le fait qu'une très grande partie de la famille royale est décédée de la rougeole, la peste de Marseille. Donc ça nous montre aussi que La maladie est omniprésente. Il y a des maladies, la rougeole qui maintenant est quelque chose de bénin, mais qui n'était pas à l'époque. C'est bien aussi de rappeler que, enfin, c'est une des vertus de l'histoire qui est maîtresse de vie, que l'épidémie a toujours fait partie de la vie des sociétés, de la société française et des sociétés européennes. La peste de Marseille ne touche que Marseille. Justement, le régent est assez prompt dans la gestion de la ville. Il fait fermer la ville et puis il attend que ça se passe.
Oui, alors on peut effectivement le dire. C'est-à-dire que c'est vraiment donc la Provence en fait qui est touchée. C'est vraiment un sujet qui est absolument passionnant, la peste de Marseille. Je dois vous avouer que quand j'ai écrit la biographie, en tout cas ce passage-là a été écrit avant le coronavirus. Par contre, j'ai fait les relectures globalement pendant le confinement et c'est absolument frappant. Vous dites qu'il est rapide. Il est rapide, mais en même temps, il la voit pas arriver. C'est-à-dire qu'en fait, on lui dit attention, on a l'impression vraiment qu'il y a des choses qui sont en train de se passer à Marseille, il faudrait peut-être prendre des mesures. Il ne les prend pas tout de suite, il attend, voilà, qu'il y ait vraiment des confirmations. Après, vraiment, quand la peste est confirmée, c'est vrai que se met en place ce fameux mur qui va ceinturer la Provence, c'est-à-dire que la Provence est confinée à l'intérieur, si vous voulez. C'est vraiment, vraiment comme ça qu'on le voit. Et surtout, ce qui est vraiment très étonnant, c'est qu'il met en place une administration à Paris, bien sûr, hein, on est dans un pouvoir centralisé, qui s'appelle le Conseil de Santé. Alors, si on n'est pas trop regardant, on peut vraiment voir ça comme une sorte de premier ministère de la Santé, puisque ce Conseil de Santé, qui réunit le régent, ainsi que quelques conseillers proches, effectivement, et puis, bien entendu, où on regarde avec précision les lettres des intendants, eh bien, ce Conseil de Santé est chargé de prendre des décisions pour endiguer la peste de Marseille. Et on le voit, de toute façon, sur les épidémies et ce qu'on voit sur la peste de Marseille, la seule chose qui marche, effectivement, c'est, bah, de toute façon, sur la peste, hein, soyons clairs, c'est vraiment d'empêcher les gens de bouger. Hein, c'est vraiment ça qui permet d'y mettre fin.
Vous dites qu'il tarde un peu à prendre des décisions. Il y a aussi le temps que prennent les communications. Aujourd'hui, tout va très vite, mais il faut combien de temps à peu près? Enfin, Paris-Marseille, à l'époque, en carriole, c'est 15 jours de déplacement, 15 jours
par semaine. Alors là, vous me posez vraiment une colle. Je pense que c'est un peu moins quand même que les 15 jours.
On peut avoir un rapide.
Le temps que les courriers arrivent. Mais c'est vrai que ça prend effectivement du temps. Et ce qu'on voit justement à cause de ce temps, c'est que justement il y a une forme de tension, en tout cas au début, et un manque de coordination entre le pouvoir central et le pouvoir local. C'est-à-dire que notamment le pouvoir local essaye de prendre des mesures, que le pouvoir central ensuite, donc le région, en prend, mais qu'elles viennent se rajouter déjà au train de mesure. Et puis, il y a un moment, avec la mise en place du Conseil de Santé, où Philippe d'Orléans tape un peu du poing sur la table, et c'est vraiment le pouvoir central qui va prendre les mesures. Mais c'est vrai que voilà, ça n'a rien à voir, la difficulté d'avoir les informations, effectivement, il se passe beaucoup de temps.
Il y a une nouvelle de Marcel Pagnol dans le Temps des Secrets, donc ses souvenirs d'enfance, être le tome 3 ou 4, où il raconte donc une nouvelle sur la peste à Marseille. C'est très sombre, on n'est pas du tout dans le style Pagnol que l'on connaît, mais c'est une très belle nouvelle de Pagnol. Et j'invite nos éditeurs à la relire s'ils aiment Marcel Pagnol, parce qu'on a une évocation justement de cette peste en Provence et des souffrances que ça a causées pour la population, pour avoir une vision de l'intérieur et pas uniquement statistique de la situation. Dernière question, Alexandre Dupilet, puisque nous arrivons au terme de cette émission. Le régent, une fois qu'il est décédé et que Louis XV est devenu le roi majeur, est-ce qu'il en reste quelque chose en termes de style politique? Est-ce qu'il a fondé une école, mais est-ce que certaines personnes se sont réclamées de son style, ou alors il a disparu, on est passé au règne et puis la parenthèse est refermée, on passe à autre chose.
Oui, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que non, il est très vite oublié. Hein. En vérité, vraiment, on passe très très vite à autre chose. Le duc de Bourbon, qui devient le principal ministre, tourne la page et d'ailleurs revient sur certaines décisions du régent, donc comme vous l'avez signalé tout à l'heure sur les mariages espagnols. Et le duc de Bourbon lui-même, ne restant que 2-3 ans jusqu'en 1726 au pouvoir, on passe après à Fleury. Et là, vraiment, la page est complètement tournée. Non, on ne peut pas dire que le régent ait fondé une manière de gouverner. Ce qui est ce qui va peut-être à l'encontre de son image. Encore une fois, on voit certains ont parlé de quelqu'un qui était libéral avant l'heure, qui avait annoncé le siècle des Lumières, et je ne pense pas du tout. Je pense vraiment que la Régence, c'est plutôt le grand siècle qui s'achève que le siècle des Lumières qui commence. On est vraiment quand même dans la droite ligne de Louis XIV, y compris sur la manière de gouverner quand même. Il faut quand même bien le signaler.
Bien, merci beaucoup, Alexandre Dupilet, d'avoir évoqué Le Régent. Je rappelle le titre de votre ouvrage chez Talendier, Le Régent, Philippe d'Orléans, l'héritier du Roi Soleil. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Et puis, vous pouvez retrouver Conflit en kiosque avec un numéro consacré à la Méditerranée orientale, les enjeux du gaz, de l'Égypte, d'Israël, de la Turquie, illustré par de très nombreuses cartes pour comprendre les enjeux actuels de cette nouvelle question d'Orient. Merci pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Géopolitique.